Philippe, conférence privée, Saint-Joseph, 17 octobre 1984.
Chaque année, avec le mois d'octobre, il faut nous remettre très profondément dans la dépendance à l'égard de Marie, surtout pour nous, puisque de fait, nous avons ce désir de vivre du rosaire et de faire que le rosaire soit pour nous comme la conduite de Marie sur nous, comme l'éducation de la Très Sainte Vierge sur nous, que Marie puisse vraiment nous éduquer. Et il faut le prendre d'une façon très forte et très réaliste dans notre vie. Marie doit nous éduquer au point de vue de la contemplation et de l'oraison. Marie doit nous éduquer au point de vue de la charité fraternelle. Les deux grandes orientations auxquelles il faut tout le temps revenir, puisque c'est le désir du Christ. C'est donc le désir du cœur de Marie. Alors regardons, si vous voulez, en premier lieu, je vous l'ai déjà dit, mais il faut le reprendre indéfiniment. On ne parlera jamais assez de l'oraison et de la contemplation. Et on ne parlera jamais assez du rôle de Marie dans l'oraison et la contemplation, comme dans la charité fraternelle. Il faut d'abord comprendre que nous devons avoir vis-à-vis de Marie une attitude théologale. On m'a demandé quelle différence y a-t-il entre l'attitude de dévotion et l'attitude théologale quand il s'agit du mystère de Marie. Et je crois qu'en effet, c'est très important. On peut avoir de la dévotion à la Très Sainte Vierge, tant mieux, ne la supprimez pas. On peut avoir de la dévotion. La dévotion à la Très Sainte Vierge prend des formes très diverses. Il y a des gens qui ont de la dévotion à la Très Sainte Vierge qui courent partout où il y a des lieux d'apparition. C'est une forme. C'est une forme de dévotion. Vous voyez, ce n'est pas théologal, ça. C'est une forme de dévotion. Alors, on a les fervents de tel ou tel lieu. Je ne les nomme pas, ce n'est pas la peine. Mais vous voyez bien. Il ne faut pas, quand on est en face de ces fervents, de ces lieux, surtout quand ils ont reçu des grâces, là, il ne faut surtout pas avoir une attitude, vous voyez, un petit peu d'intellectuel. Ce serait très mauvais, parce que ça les blesse. Le bon petit peuple de Dieu est très proche de la dévotion. Très proche des pèlerinages. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Il ne s'agit pas de leur enlever le pain de leur bouche. Alors évidemment, ça pose quelques problèmes quand la hiérarchie s'oppose. Alors ça peut poser des problèmes, vous savez, ça c'est sûr. Il faut à ce moment-là être attentif à ce qu'on dit. Parce que c'est répété ordinairement. Surtout si vous avez l'habit. Tant que vous êtes laïque, hein, vous avez une liberté de laïque. Mais quand on a l'habit, qu'on est prêtre, qu'on appartient à une communauté, faisons attention. Ne méprisons pas. Et quand on sait que la hiérarchie n'est pas pour, c'est très difficile de poser un jugement qui ne soit pas dans le même sens. Alors, Je me souviens avoir une fois posé la question à Marthe, parce que ça m'intéressait, et puis qu'on est devant des problèmes complexes. L'avantage de la Suisse, c'est qu'il y avait certains évêques qui étaient pour et d'autres évêques qui étaient contre, hein, par rapport à tel ou tel lieu de pèlerinage. Alors on pouvait toujours en référer d'un évêque à l'autre. Mais quand tous les évêques sont d'accord, c'est plus difficile. Alors Marthe m'avait simplement dit ça. Père, demandez-leur pourquoi ils y vont. S'ils y vont pour prier, dites-leur qu'on a le droit de prier la Sainte Vierge partout. Ben, c'était Marthe, hein. C'était plein de finesse. Dites-leur qu'on a le droit de prier la Sainte Vierge partout. Mais s'ils y vont pour prier, ils y vont pour prier. Alors, ils vont pour prier. S'ils y vont parce que ça les intéresse au point de vue de la curiosité, dites qu'il vaut mieux pas y aller. Vous voyez, je crois que c'est très joli parce que ça rectifie le jugement. Et au fond, c'est ce qu'on doit faire. On doit toujours rectifier. Alors, il y a une dévotion à la très Sainte Vierge qui consiste justement, parce qu'on a reçu telle ou telle grâce à tel endroit, on est fervent de cet endroit-là. Là, il y a un lien spécial, on doit faire attention, on doit dire qu'il faut respecter la hiérarchie, et en même temps, si on se sent très poussé, qu'on essaie de le faire avec le plus de discrétion possible, sans vouloir s'opposer. L'attitude théologale, c'est toujours une attitude de foi. Et la dévotion relève de la vertu de religion. Donc c'est l'homme qui cherche. Tandis que la vertu théologale, c'est l'homme qui reçoit gratuitement. L'attitude théologale que nous devons avoir vis-à-vis de Marie, c'est de revenir toujours à ce que les pères de l'Église, Saint Ambroise, Saint Augustin, nomment l'alliance familiale que Jésus réalise à la croix. Alors, on revient à l'enseignement direct du Christ. C'est du reste ce qu'on doit faire toujours quand il s'agit de révélations privées. Les révélations privées, vous voyez, n'engagent pas la foi. Donc, il ne faut jamais, vis-à-vis de révélations privées, dire « j'y crois ». Ce serait faux. Je les reçois parce que la Providence m'a fait connaître telle ou telle personne. Il est évident que quand on a eu des relations de charité fraternelle profondes avec telle ou telle personne, par exemple Marthe Romain, puisque maintenant elle est morte et qu'elle a été quand même très proche de nous, on reçoit plus facilement sa prière, ce qu'elle a pu dire, parce qu'on l'a connue. Mais ce n'est pas à cause de cela qu'on reçoit ces paroles dans la foi. On n'a pas le droit de s'appuyer sur des paroles de révélation privée pour faire une théologie. Bien comprendre cela. Toute révélation privée est pour notre dévotion. Pour notre dévotion, très bien. Et la révélation privée doit permettre à notre foi de mieux comprendre certaines paroles de Jésus, certaines paroles de Marie, auxquelles peut-être on n'avait pas fait beaucoup d'attention. Alors, ça réactue pour nous ces paroles qui prennent subitement un sens tout à fait particulier. Mais voyons, on ne s'appuie plus à ce moment-là sur la révélation privée, mais sur la parole du Christ. On doit dire un tout petit peu comme les Samaritains. Ce n'est plus sur ton témoignage que nous croyons maintenant, mais nous l'avons entendu. C'est très joli, ça. Ce n'est plus sur le témoignage de la Samaritaine que les Samaritains étaient venus, mais c'est parce qu'ils avaient entendu directement Jésus. Eh bien, pour nous, ça doit être la même chose. Les paroles, les révélations privées, nous devons toujours les ramener à la parole de Dieu. Et ces révélations privées ramenées à la parole de Dieu nous permettent de recevoir la parole de Dieu d'une façon plus profonde, d'une façon plus personnelle, d'une façon qui regarde davantage notre vie. On ne l'avait pas vu comme ça. Alors à ce moment-là, les révélations privées nous conduisent à une attitude théologale, puisque la parole de Dieu, c'est justement ce que nous recevons dans la foi. Et parce que nous la recevons dans la foi, c'est une attitude théologale. C'est dans la lumière de Dieu que nous recevons ça. C'est très important cela. Parce que si on se nourrit, vous voyez, de révélations privées, au bout d'un certain temps, notre foi peut très bien ne plus avoir son aliment propre. Alors, il y a des dévotions qui se développent, qui peuvent être quelquefois des parasites par rapport à l'attitude contemplative. Notre contemplation repose sur la foi, ne repose pas sur les vraies révélations privées. Quand les révélations privées reprennent uniquement les paroles de Dieu, c'est très simple, votre problème. Bon. Mais autrement, c'est toujours par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la même chose pour la théologie. Même la théologie de saint Thomas. La théologie de saint Thomas doit nous aider à mieux comprendre la profondeur de telle ou telle parole de Dieu, telle ou telle parole de Jésus. Nous devons tout le temps revenir à cette parole de Dieu. Saint Thomas fait ça admirablement, vous voyez, dans le Contrat Gentiles. Quand vous regardez le Contrat Gentiles, saint Thomas donne un raisonnement, et puis après, il donne une parole de Dieu. Donc il nous montre bien comment tous nos raisonnements, nous devons les utiliser pour mieux comprendre la force de la parole de Dieu. Alors, quand il s'agit du mystère de Marie, nous devons tout le temps revenir à ce moment si important où Jésus, du haut de la croix, nous donne Marie. Voilà ta mère. Et nous devons recevoir dans notre foi, dans notre espérance et dans notre amour, cette parole qui nous lie à Marie. Les paroles de Dieu sont efficaces. Les paroles de Dieu réalisent ce qu'elles signifient. Et donc, quand nous recevons dans la foi la parole de Jésus, « Voilà ta mère », au plus intime de notre cœur, se réalise quelque chose. Un lien avec Marie. Dans notre grâce, il y a quelque chose qui s'explicite. Il y a un lien de connaturalité avec Marie qui se réalise grâce à la parole de Jésus et par la parole de Jésus. Et alors à ce moment-là, nous vivons de cette nouvelle alliance dans la lumière du Christ. Et nous vivons cette nouvelle alliance parce que Jésus lui-même nous le demande. Dans la dévotion, c'est nous qui prenons les initiatives. Nous pouvons avoir des dévotions à tel ou tel lieu de culte. Certains aiment mieux Lourdes, d'autres aiment mieux la rue du Bac, d'autres aiment mieux, venez, je prends des lieux classiques, n'est-ce pas, qui sont reconnus par l'Église. Ben non. On peut les aimer tous, du reste. Hein. Et je crois que le mieux, c'est de les aimer tous. Parce qu'il ne faut pas mettre d'exclusion. Il ne faut pas arriver à faire des luttes entre les lieux de pèlerinage. Vous savez, comme dans certaines processions, je ne dis pas dans quelle ville, où paraît-il, n'est-ce pas, il y a la Vierge de tel endroit, la Vierge de tel autre, et puis là, chacun prend la défense de la Vierge, et puis si l'autre passe devant, on lui dit, ah, on va te venger, hein. Alors on dit à la Vierge qu'on la vengera. Alors on voit très bien qu'à ce moment-là, vous voyez, il y a une espèce de rivalité d'un lieu à un autre. C'est pas ça du tout que veut la Sainte Vierge. La Sainte Vierge veut que nous aimions tous les lieux d'apparition. Mais on peut avoir des préférences aussi. Parce que dans tel lieu, Marie nous a accordé telle ou telle grâce, du moins. Il nous a semblé qu'elle nous a accordé telle grâce. Alors, on est heureux de cela, de voir cela. Et dans d'autres hauts lieux, non, on est sec comme une trique, mais c'est encore une grâce, du reste, d'avoir fait ce lieu pour exciter, éveiller en nous une foi plus grande, une foi plus dépouillée. Ça peut être comme ça. pas le signe d'une non-vocation. Quand on va dans tel monastère, on reçoit vraiment une grâce de sécheresse effrayante. Ben, ça peut arriver au noviciat, ça. Vous savez bien, avant d'entrer, on avait des grâces extraordinaires. On se mettait à pleurer merveilleusement dans tous les lieux de la Très Sainte Vierge. Et puis il suffit qu'on entre au noviciat pour que on devienne sec, sec, surtout en face du Père Maître. Alors ça devient effrayant, non ? On est vraiment d'une sécheresse absolue. Alors on dit, ah, c'est pas ma vocation. Mais pas du tout, ça veut rien dire du tout. La vocation, c'est pas être sec ou être humide. Hein. La vocation, c'est la question de la foi. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est de savoir si c'est sa volonté ou pas sa volonté. Savoir si Dieu réclame de nous telle attitude. Savoir si on doit tout lui donner. Et vous savez très bien, le signe est toujours négatif. Hein? Le jeune homme riche, il ne faut jamais l'oublier. Ça m'avait beaucoup frappé dans le temps, moi. Quand je suis entré chez les Dominicains, comme je suis entré jeune, à ce moment-là, tous mes chers amis me disaient « Pourquoi entres-tu maintenant ? Tu peux bien... » Eh bien, je ne pouvais dire qu'une seule chose. La seule chose que je savais, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. J'aurais dit ça à un psychologue, il m'aurait dit, mais je ne veux rien du tout. Mais à ce moment-là, heureusement, on ne parlait pas encore de psychologue, ça allait. Bon, alors, la seule chose que je savais, c'est je ne pouvais pas faire autrement. Autrement dit, l'épisode du jeune homme riche. Je n'aurais pas pu regarder le Christ de la même façon si j'avais refusé. Et pour moi, c'est le critère. Alors après, j'ai cherché au point de vue théologique et j'ai vu que c'était le seul. Parce que quand vous dites, on chante merveilleusement dans cette communauté. Et c'est pour ça que je chante. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ces offices, ça me met tout à fait en extase. Alors on chante merveilleusement, c'est extraordinaire. Évidemment, c'est un signe, si vous voulez. Mais ce n'est qu'un signe, c'est sûrement pas un motif divin. Enfin, c'est peut-être pas à cause de ça qu'il faut pas faire des efforts de bien chanter, n'est-ce pas? Mais dans cette communauté, il y a telle ou telle chose qui est extraordinaire. Il y a un clocher qui me saisit, qui me semble une merveille. Alors, moi, je vais habiter vraiment dans une église qui soit très très belle. Alors, c'est encore un motif, mais c'est un signe, c'est pas un motif, c'est bien évident. La vocation ne se tient pas à cela. La vocation est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est le Christ qui, c'est le Christ qui nous appelle, c'est le Christ qui nous attire. Alors à ce moment-là, on peut dire que ce n'est qu'un signe négatif. On sait qu'on ne peut pas faire autrement. C'est même très très curieux. Je crois que c'est tout le temps comme ça. Que si on reculait, on reculerait, il y a quelque chose qui n'irait pas. Et ça, ça demeure. Hein. Ça, c'est objectif. C'est du côté de la foi. C'est notre regard vis-à-vis du Christ. Et notre regard vis-à-vis du Christ, on sait qu'intérieurement, il nous attire. Et il réclame de nous un don total. Qui fait qu'on ne garde rien pour soi, mais qu'on donne tout. Alors, à ce moment-là, il y a vraiment un lien. Eh bien, je crois que pour Marie, c'est comme ça, vous voyez. Il y a des moments où notre lien avec Marie peut impliquer une très grande dévotion. Tant mieux. Il y a des moments où, avec Marie, on ne ressent plus rien. C'est la foi, toute nue. Ça n'a pas d'importance. On sait que le mystère de la foi implique des purifications. On sait que le mystère de la foi implique, de fait, ces moments de beaucoup plus grande sécheresse. Alors, on les accepte parce que, de fait, Dieu nous demande de vivre ce mystère de cette manière. C'est Jésus qui nous la donne. Oui, la dévotion, c'est nous qui choisissons. Et l'attitude théologale, c'est le Christ qui choisit. C'est l'autre mouvement, et c'est beaucoup plus sûr. C'est pour ça que la vie théologale demeure toujours la même substantiellement. Tandis que la dévotion, elle prend des visages différents suivant notre âge. Elle prend des visages différents suivant les pays. Elle prend des visages différents selon les spiritualités des communautés. C'est pour ça qu'on ne peut rien fonder de stable uniquement sur la dévotion. La dévotion est bonne, mais elle demande d'être dépassée. Et ça, je crois que c'est très important, vous voyez, par rapport au mystère de Marie, que nous ayons un regard théologal sur Marie. Maintenant et dans nos prédications futures. C'est très très important de pouvoir parler du mystère de Marie tel que Jésus veut que nous en parlions. C'est lui qui nous apprend à la regarder. Et on peut dire que d'une certaine manière, vous voyez, il ne faut pas l'oublier ça, que toute notre philosophie et que toute notre théologie, c'est pour parler d'une façon vraie de Marie. C'est pour pouvoir parler d'une manière théologale de Marie. Parce qu'on doit en parler dans cette lumière. Marie nous est donnée par Jésus. Et nous devons la recevoir comme le don suprême de Jésus. Puisqu'il nous donne celle qu'il aime le plus. Jésus aime plus Marie que sa propre vie terrestre. Ça, c'est sûr. Il aime plus Marie que ce que représente sa vie terrestre, si grande, si noble qu'elle soit. Parce que Marie, c'est le trésor de son cœur. Et il aime Marie du même amour qu'il aime le Père. C'est ça qui est inouï. C'est pour ça qu'on ne peut jamais aimer trop la Très Sainte Vierge. On peut l'aimer mal. Alors là, du côté de la dévotion. On peut avoir une trop grande dévotion, c'est-à-dire une dévotion, si vous voulez, qui est telle qu'on a 36 statues de la Très Sainte Vierge dans ses poches, et dès qu'on est dans un lieu, immédiatement, on met la Salette, la rue du Bac, alors, vous voyez, alors vous avez toutes les statues de la Très Sainte Vierge, et vous ne pouvez pas déménager sans déménager toute l'armoire, hein, où il y a toutes les statues. Alors, on aurait une dévotion un peu exagérée, vous voyez, et le Père Maître dirait, non, je les prends chez moi, ces statues, et je vous en laisse une. Et à la fin de l'année, voyez, on aurait toutes les statues de tous les novices à répartir, on les donnerait à des pauvres qui n'ont même pas de quoi acheter une statue de la Sainte Vierge. Alors, ça serait très bien. Ce seraient les dévotions qui seraient données aux pauvres. La dévotion est bonne, mais elle demande d'être dépassée. Alors, si elle est trop forte, elle ne peut pas dépasser. Et si nous aimons Marie dans un regard théologal, on ne peut pas l'aimer trop. Puisqu'on doit l'aimer comme Jésus l'aime. Et Jésus l'aime comme il aime le Père. C'est du même amour. Substantiellement, c'est le même amour. C'est une autre modalité d'amour, mais c'est substantiellement le même amour. Et donc, c'est un amour infini. L'amour du Fils à l'égard du Père est infini. Et l'amour de Jésus pour Marie est infini. Jésus l'aime dans sa charité fraternelle d'un amour infini. Et donc, il n'y a pas de limite à l'amour que nous avons pour Marie, puisque nous devons l'aimer comme Jésus l'aime. Et nous devons prêcher sur Marie dans cette lumière du Christ, c'est-à-dire montrer toute la préférence, toute la dilection de Jésus pour Marie. Il l'a aimée parce que le Père lui a donné. Il l'a aimée parce qu'il s'est offert pour elle et qu'il lui a tout donné. Et c'est pour ça qu'elle est pleine de grâce et qu'elle est immaculée et qu'elle est aimée de cet amour unique. Et c'est celle-là que Jésus nous donne pour que nous l'aimions avec lui de cet amour infini. Que notre cœur s'agrandisse auprès du cœur de Marie. Et voyez, c'est ça qui est très beau, c'est que l'amour que nous avons pour Marie, c'est le même amour que nous avons pour Jésus, mais nous l'exerçons autrement. Pour Jésus, nous le contemplons et nous l'adorons. Pour Marie, nous l'aimons d'une charité fraternelle. Et parce qu'elle est notre mère, nous lui demandons de nous apprendre à adorer et à contempler. Et ceci fait partie de notre charité fraternelle à son égard. Nous l'aimons comme celle qui nous est donnée par Jésus pour qu'elle nous apprenne à adorer et contempler. Nous supplions Marie d'être de plus en plus proche de nous pour nous apprendre vraiment à entrer dans cette intimité avec Jésus. Et ça, c'est tout le rôle de l'éducation de Marie. Elle nous est donnée pour nous rendre dociles au Saint-Esprit. Elle nous est donnée pour nous introduire auprès du cœur de Jésus. Et c'est Marie qui doit nous introduire de plus en plus dans son amour pour nous. Elle nous porte et elle nous introduit. Et c'est là où, comme je le rappelais ce matin au noviciat, c'est là où il faut comprendre que dans notre oraison, et peut-être spécialement pendant notre oraison du mois d'octobre, n'hésitons pas, pendant l'oraison, de réciter avec une grande ferveur notre chapelet, une dizaine de chapelets. Il ne faut pas hésiter. Si l'Esprit Saint vous prend et vous met tout de suite dans la huitième demeure, très bien. Mais si de fait, après avoir adoré, vous êtes dans un état de lutte, c'est difficile, c'est pas commode. Je crois que c'est très bon et ça plaît à la Très Sainte Vierge. Elle sourit si nous récitons tout doucement notre chapelet pendant l'oraison. Parce qu'à ce moment-là, elle comprend que nous lui demandons de venir nous aider. Nous lui demandons d'être là, plus proche, et de nous introduire elle-même auprès du cœur de Jésus. Elle sait bien nos difficultés. Elle est une mère qui nous connaît. Elle sait bien. Elle sait bien que nous avons une soif intense de faire en raison. Mais qu'en même temps, nous avons une peine et très grande difficulté d'entrer dans l'oraison. Elle sait bien que les sécheresses et les aridités sont dures à porter. Elle le sait. Et du reste, c'est ordinairement ce qui arrive quand vous avez de grandes grâces, de joie, des grâces sensibles, de joie. Vous ne pensez plus beaucoup à Marie et vous ne pensez qu'à Jésus. Quand vous êtes un peu dans l'aridité, vous regardez plus facilement Marie. Et vous lui demandez d'être là. Et quelquefois, Jésus exprès nous met un peu dans l'aridité pour que nous regardions Marie. Ça fait partie de la conduite de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous plonge quelquefois dans l'aridité, et dans une aridité dure qui se prolonge, pour que nous puissions tout simplement, comme la petite Bernadette, réciter une dizaine de chapelets lentement auprès d'elle. Lui dire notre amour. Récitons la dizaine de l'Annonciation. Je crois que c'est bon. Pas forcément, vous voyez, ne prenez pas ça comme une exigence absolue. Il faut beaucoup de souplesse, hein, toujours dans l'oraison. Et avec Marie encore plus. Mais je crois que pendant le mois du rosaire, l'Esprit Saint veut que nous demandions à la Très Sainte Vierge de nous éduquer dans l'oraison. Nous en avons besoin. Nous n'avons pas de méthode d'oraison, nous le savons bien. Nous avons Marie qui nous est donnée. Et elle nous est donnée pour être le milieu divin en lequel nous pourrons aller plus vite. Nous le savons théoriquement. Nous le savons théoriquement. Commençons à comprendre ce que saint Thomas dit en commentant les noces de Cana. Les noces de Cana, prises d'une façon mystique, les noces de Cana représentent l'alliance de notre âme avec le Christ. Et leur raison, c'est cette transformation de l'eau en vin. C'est donc la transformation de notre cœur, de notre pauvre cœur humain, qui est de l'eau. Notre bonne volonté, c'est ça. Nous avons une bonne volonté de faire oraison, nous sommes levés à l'heure qu'il fallait, et nous avons la bonne volonté de le faire. Ça dure un petit moment, et puis après c'est dur, pas commode du tout. Et nous savons que l'oraison, c'est la transformation de notre cœur en le cœur du Christ. Mais pour que ça se fasse, Marie est invitée. Et saint Thomas nous dit que Marie est toujours invitée. Elle est toujours présente. Alors parce qu'elle est invitée par le Christ, par l'Esprit Saint, c'est plus aimable pour nous, à son égard, de l'inviter aussi. Et de la regarder. Et de réciter une dizaine de chapelets, très lentement, selon le rythme que l'Esprit Saint mettra en nous, pour lui dire notre fragilité, nos difficultés, notre incapacité de faire oraison. Il faut que nous lui disions ça. Et que nous fassions tous cet effort, hein, d'être fidèles au temps d'oraison du matin et du soir. Et si on peut faire un peu plus, le faire un peu plus. Mais spécialement fidèle pendant ce mois d'octobre. Faire un effort de se lever vraiment pour l'oraison du matin. Il faut tout le temps recommencer, hein, même si à un moment donné on était fatigué, il faut vite revenir à cette exigence de faire oraison le matin en commun. Marie aime de nous voir tous assemblés et tous nous l'invoquons. Demandez à Marie d'être ce milieu divin dans lequel va s'épanouir ce temps d'oraison, dans lequel notre cœur va pouvoir s'unir au cœur de Jésus. Alors c'est là où le mystère de l'Annonciation doit être pour nous une très grande lumière, et une lumière incessante, puisque le mystère de l'Annonciation nous fait entrer dans le premier moment de la contemplation chrétienne, dans le premier moment où l'oraison et la contemplation sont intimement liées. Avant l'Annonciation, Marie adorait, Marie méditait, Marie avait soif de contemplation. Et ce n'est qu'à l'Annonciation où elle est vraiment entrée dans ce mystère de la contemplation. C'est vraiment à ce moment-là. Et c'est à travers son fiat. C'est en disant qu'il me soit fait selon ta parole que Marie est entrée dans une contemplation du don que le Père lui faisait de son Fils. Et nous comprenons alors que tout notre effort d'oraison et de contemplation, ça doit être de recevoir le secret du Père et vivre du secret du Père. Il nous le donne, son Fils. Et toutes les paroles de l'Écriture sont ordonnées à ce don. La parole substantielle qui nous est donnée. Ce n'est pas seulement une parole merveilleuse, mais c'est la parole substantielle qui nous est donnée et que nous recevons dans une plénitude de foi. L'oraison, c'est ça, ouvrir notre cœur au don que le Père nous fait de son Fils. Et il faut recommencer tous les jours. Et ça, c'est une attitude de foi. Nous mettre directement dans cette relation personnelle avec le Père. Et voyez combien Marie nous aide, là. C'est pour ça que si nous récitons la dizaine de l'Annonciation, et que nous prenons un peu l'habitude de ça. Vous l'avez rappelé l'année dernière pour ceux qui étaient là. Il faut que Marie nous apprenne à faire oraison, pour que l'oraison pénètre dans notre vie comme une exigence primordiale. Un jour on n'a pas fait oraison, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme un jour on a sauté son repas de midi. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, on s'en aperçoit. Eh bien, un jour on n'a pas fait oraison, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça en nous. Et il faut demander à la Vierge Marie de nous apprendre justement à faire cette oraison avec elle. Nous introduire dans ce don que le Père nous fait de son Fils. Entrer dans le royaume de Dieu par la foi. En sachant que ce don exige que nous soyons entièrement à lui et que nous allions jusqu'au bout de son appel. Il faut que nous demandions cette grâce à la Vierge Marie parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de recevoir généreusement, gratuitement ce don. Mais ce n'est pas uniquement la parole, hein, c'est le don du Fils. La parole, si elle est séparée de ce don, n'est pas contemplative. Elle ne peut pas être vécue d'une manière contemplative. C'est le mystère exprimé par la parole. C'est le mystère donné par la parole de Dieu que nous recevons dans la foi. Ça, c'est le réalisme de la foi contemplative. On reçoit le mystère, on reçoit le don du Père, on reçoit le Fils. Et c'est toujours Jésus qui est au cœur de notre oraison. C'est toujours Jésus, dans son humanité sainte, qui doit être là, présent dans notre oraison et dans la contemplation. Sainte Thérèse le dit, hein. Si on quitte l'humanité sainte de Jésus, on perd du temps. Et donc, il faut tout le temps revenir à cette présence envahissante, à cette présence que nous recevons avec amour, à cette présence qui nous lie à Jésus, au cœur de Jésus, par Marie et par l'Esprit Saint, en Marie et en l'Esprit Saint. C'est ce qu'est le plus simple en raison. C'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et en même temps, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc ce n'est pas étonnant qu'à certains moments, ce soit difficile et dur. Hein. Il faut tout simplement continuer avec une totale confiance. Un jour, il y aura le voile qui tombera. Sœur Élisabeth de la Trinité, hein, l'a compris d'une façon admirable, ça. Et Dieu nous la donne pour que par elle, nous ayons un désir encore plus grand de cette contemplation de la très sainte Trinité, de ce regard sur la très sainte Trinité par Marie et avec elle. L'Annonciation nous fait comprendre donc que la contemplation, c'est un au-delà de la parole. Et c'est recevoir le don personnel du Fils. C'est recevoir le don personnel du Fils qui est la lumière, qui est le Fils bien-aimé. C'est en même temps, pour que cette contemplation soit vraie, une remise de toutes nos activités à Dieu. Pour être petit serviteur de Dieu. Marie a été servante admirablement par sa maternité selon la chair et le sang. Mais chacun d'entre nous, nous devons être serviteurs dans la mesure même où nous aspirons à l'oraison. Pour que notre oraison ne soit pas une oraison lointaine, pour que nous n'idéalisons pas, mais que nous maintenions ce réalisme de l'amour. Et chaque fois que nous désirons faire oraison et que nous supplions l'Esprit Saint de nous aider, il faut que nous disions à Dieu que nous voulons être son serviteur. Serviteur dans l'ordre de l'amour. Que nous donnons complètement. Un service qui regarde Dieu, un service qui regarde le prochain. Ça nous aiderait beaucoup, vous voyez, à vivre une charité fraternelle très efficace, tous les jours, si dans notre oraison, nous avions un contact plus direct avec le cœur de Jésus. Ça nous aiderait beaucoup à dépasser tout ce qu'il peut y avoir de petites oppositions latentes ou de négligence ou de mauvaise humeur. Il faut que l'oraison mette notre cœur dans le cœur du Christ. Il faut que l'oraison nous mette tout proche de Marie dans son intimité avec Jésus. Il faut que l'oraison nous fasse comprendre que c'est ce mystère-là qui nous est donné, qui est à nous. Et que nous devons essayer, dans la mesure du possible, d'en vivre le plus. Le mystère de l'Annonciation doit se compléter dans le mystère de la compassion. Il faut que nous aimions beaucoup le mystère de la compassion. Et il faut que ce soit un peu notre mystère. Je vous l'ai dit pendant la retraite, c'est tellement important. Ce soit un peu notre mystère, ce soit un peu le mystère auquel nous revenions, que nous revenons tout le temps. Nos sœurs contemplatives doivent être très prises par ce mystère de la compassion, de l'agonie, de la croix et du sépulcre, comme Marthe. Elles doivent être entièrement prises par ce mystère. Mais il faut que nous, comprenant mieux leur vocation contemplative pure, nous soyons avec elles, avec Marie, liés à ce mystère de la compassion. Et voyez, là, nous pouvons nous servir du rosaire pour entrer dans ce mystère de la compassion et demander à Marie, quand nous récitons avec elle le mystère de la crucifixion, demander à Marie d'être là pour nous aider à entrer dans ce lien qu'elle a connu avec le cœur de Jésus. Dans ce lien si fort, si simple, de foi, d'espérance et d'amour. Et vivre le mystère de l'agonie dans le silence de l'agonie. Vive le mystère de la crucifixion au milieu de toutes les luttes. Vive le mystère du sépulcre avec Marie. C'est tellement important pour nous de comprendre combien le mystère de la compassion doit être le mystère qui nous unit de la manière la plus immédiate au mystère de la rédemption, au mystère de la croix. Et leur comprendre que c'est dans les pleurs que Jésus veut être présent pour nous. À travers le sang de la croix, qu'il nous enveloppe de son amour et qu'il transforme notre cœur en son cœur. C'est ça qu'il veut. Le symbolisme de l'eau transformée en vin est dépassé à la croix, parce qu'on est comme dans un contact plus direct encore. C'est le Père qui nous donne son Fils, mais qui le donne de cette manière plus étroite encore qu'à Noël. Qui le donne comme celui qui a tout offert pour nous, comme celui qui n'a rien gardé pour lui, comme celui qui nous est donné pour être source de toute notre vie chrétienne, source de lumière et d'amour. Et puis nous pouvons vivre aussi de ce mystère de la résurrection. Je crois que c'est les trois grands mystères de notre vie contemplative, auxquels il faut revenir tout le temps. Et je vous dis, pendant ce mois d'octobre, il faut vraiment supplier la Très Sainte Vierge qu'elle nous introduise dans son mystère. Le mystère de la résurrection, c'est encore un mystère de contemplation. C'est un mystère de contemplation au-delà des apparitions. C'est un mystère de contemplation dans la simplicité, dans la solitude. C'est un mystère de contemplation où Jésus ressuscité nous attire à lui et nous prend. Et veut réaliser une unité infiniment plus grande encore dans cet amour victorieux qui est la gloire, dans cet amour victorieux qui est la résurrection. Marie n'avait pas besoin des apparitions parce qu'elle pouvait vivre tout de suite de ce mystère de contemplation. Et elle nous demande, nous aussi, d'accepter d'entrer tout de suite dans cette intimité. D'être avec elle sous le souffle de l'Esprit Saint. D'être avec elle debout au pied de la croix en acceptant de compléter, d'achever ce qui manque à la passion de Jésus. C'est Marie qui nous donne ce désir et je crois qu'il faut y accéder à travers ces mystères du rosaire qui nous donnent une possibilité étonnante d'entrer tout de suite puisque ça nous est donné. Le rosaire, c'est pour les humbles, c'est pour les petits, c'est pour ceux qui par eux-mêmes ne peuvent pas arriver. C'est donné pour cela, pour qu'ils puissent tous vivre de la contemplation de Marie. Vous voyez, ce n'est plus une question d'intelligence, c'est une question de foi et d'amour. Et c'est vrai que la contemplation divine est au-delà de tout ce que peut représenter le point de vue de l'intelligence et le développement de l'intelligence. C'est autre chose. C'est une nouvelle lumière. C'est une nouvelle exigence. C'est une exigence de contemplation qui vient directement du Christ et qui veut s'emparer de nous pour que nous soyons livrés et entièrement livrés. C'est une autre exigence, vous voyez, mais qui est tellement importante pour nous. Demandez à la Vierge Marie, durant ce mois d'octobre, d'intensifier en vous cette soif de contemplation et de silence. Ça va ensemble, du reste. Hein. Que l'Esprit Saint mette en nous vraiment un appel, une flamme d'amour qui vient directement du cœur de Jésus. Que nous puissions vivre ensemble cette éducation royale et prophétique de Marie sur nous, sur ceux que nous aimons, sur tous ceux qui en ont besoin. Nous savons que c'est le désir de l'Esprit-Saint, donc il faut avoir là une audace extrême. Parce que je crois que c'est très important pour entrer dans l'oraison et la contemplation d'avoir une audace extrême. Là, il n'y a plus de noviciat, vous voyez. On est directement sous le souffle de l'Esprit-Saint et on entre directement dans l'intimité avec l'Esprit-Saint. Et donc, il y a quelque chose de direct, d'immédiat, qui nous libère de tout le reste. Il faut que nous ayons goûté à cela. Et nous devons demander cette grâce. Pas des charismes, mais la grâce d'intériorité, de contemplation et d'oraison. Ça, nous devons la demander à la Sainte Vierge, les uns pour les autres, pour toute la communauté, pour tous ceux qui sont au noviciat. Les aînés doivent prier pour les benjamins. Et quand les benjamins seront complètement transformés par l'oraison et l'intimité avec le cœur de Jésus, ne vous inquiétez pas, ils viendront supplier que les aînés soient plus fidèles et que les aînés comprennent que le mystère de l'intimité avec Jésus est purement gratuite. Il est donné à qui Jésus veut le donner. Mais si Jésus vous conduit dans la communauté Saint-Jean, c'est qu'il veut vous donner cette grâce. Père, Fils et Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.